la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ces albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Ce 21 octobre est à marquer d'une pierre blanche. Avant lui, les seuls dirigeants français à y avoir séjourné étaient Pétain et Louis XVI, ou donc en prison. Et oui, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est entré dans sa cellule de la prison de la Santé à Paris. Cette incarcération de l'ancien président de la République fait suite à l'exécution provisoire d'un mandat de dépôt, conséquence directe de sa condamnation à 5 ans de prison, dont 2 fermes, pour association de malfaiteurs dans l'affaire dite Sarkozy-Kadhafi, relative au financement de sa campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy sera maintenu à l'isolement dans une cellule de 9 mètres carrés, une situation qui devrait durer 3 à 4 semaines. En effet, la Défense a très rapidement déposé une demande de mise en liberté qui met quelques semaines à être traitée. Il s'agira alors d'évaluer les risques de fuite, de concertation ou de pression sur les témoins. Un ballet de soutien s'est formé ce matin, répondant à l'appel de son fils Louis Sarkozy. Ainsi, de nombreux fidèles se sont rassemblés dans le 16e arrondissement, à 2 pas du domicile de l'ancien président. On entendait ce midi au micro de France Inter certains d'entre eux indignés du scandale. « J'ai mal à ma justice, un justiciable lambda ne serait pas allé en prison. » À méditer. Une autre personne de s'écrier que Nicolas Sarkozy ne représente pas de danger pour la société. C'est de la vengeance, pas de la justice. Enfin, selon Mediapart, Nadine Morano, députée européenne, était également présente. C'est intolérable et insupportable. On ne parle jamais de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il a fait pour le pays. Il va devenir un héros romanesque. Il va écrire un livre. Par ailleurs, les agents de la santé manifestaient devant la prison, dénonçant une incarcération médiatique en pleine crise pénitentiaire. En effet, le taux d'occupation de la prison de la santé est de près de 190%, impliquant des conditions d'incarcération plus que dégradées. Pour le moment, ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'un moment historique qui marque une rupture de confiance certaine entre les Français et la classe politique. Au sommaire ce soir dans la matinale, on reçoit Marjolaine Chour et Jean-Baptiste Taine, tous les deux chefs de projet de l'exposition FLOP au Musée des Arts et des Métiers. Ce sera en deuxième partie d'émission. Et puis Marine viendra nous parler de sa chronique Actu, ce sera en toute fin d'émission, alors restez bien avec nous. Mais tout de suite, on se penche sur le troisième baromètre des petits frères des pauvres, sur la solitude et l'isolement des personnes âgées. Pour en parler avec nous ce soir, Maude Ferral, directrice de la région Paris au sein de l'association.
La matinale de 19h, Radio Campus Paris.
Pour commencer cette matinale, nous recevons donc Maude Ferral, directrice de la Fraternité Régionale de Paris. Bonsoir Maude.
Bonsoir.
À mes côtés pour mener cette interview, il y a Félix. Salut Félix, je te laisse la parole.
Bonsoir, merci. Votre association Petits Frères des Pauvres a publié ce rapport, ce baromètre, donc le mardi 30 septembre. Un chiffre marquant, c'est 750 000 personnes qui sont en situation de mort sociale, alors qu'ils étaient 300 000 en 2017. Mais ce sont aussi plus de 2 millions de personnes qui se sentent seules presque tous les jours. Vous faites plus globalement un état des lieux du niveau d'isolement et du sentiment de solitude que cette partie de la population ressent, et apporter notamment des préconisations. Mais avant d'entrer donc dans le corps de ce baromètre, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce que c'est Petits Frères des Pauvres et votre champ d'action ?
Oui, bien sûr. Alors, l'association des Petits Frères des Pauvres a été créée il y a maintenant 80 ans. C'est une association qui œuvre en faveur du lien social et qui lutte contre l'isolement des personnes âgées de plus de 60 ans, en particulier les plus précaires. Les bénévoles de l'association accompagnent au domicile, en EHPAD, en prison, les personnes âgées en situation d'isolement. Ils organisent aussi des actions collectives et des temps forts, des sorties culturelles, les réveillons de Noël, des séjours vacances. Et on accompagne aussi également des personnes âgées gravement malades ou en fin de vie, notamment dans les unités de soins palliatifs, et également aussi des personnes âgées vieillissantes qui sont aujourd'hui à la rue, que l'on met à l'abri à l'hôtel et qu'on accompagne ensuite dans un parcours de relogement. Donc notre association a développé toute une série d'activités pour venir en aide et en soutien aux personnes âgées isolées à Paris en fonction de leur situation.
Donc, ce baromètre, il cible la solitude et l'isolement de ces personnes de plus de 60 ans, 60 ans et plus. Est-ce qu'on peut déjà faire la différence entre ce que c'est la solitude et l'isolement ?
Oui. Alors, effectivement, on a tendance souvent à confondre les deux termes. On a coutume de dire que la solitude, c'est un ressenti. C'est-à-dire que c'est comment on va se sentir. Et ça peut être un choix. On peut choisir d'être seul. On peut aussi se sentir extrêmement seul alors qu'on a un cercle familial et un cercle amical très, très, très développé. Donc, on est vraiment sur l'émotion, le ressenti. L'isolement est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus objectivé que l'on va mesurer, notamment au regard de ce qu'on appelle les cercles de sociabilité. Et on va y revenir quand on parlera d'isolement et de mort sociale. Et donc, ce que les Petits Frères des Pauvres font depuis 2017, à travers le baromètre, c'est documenter et analyser l'évolution de la solitude et de l'isolement chez les personnes âgées de plus de 60 ans. Et donc, nous avons publié le 30 septembre notre troisième baromètre. Donc, on a 8 ans de recul aujourd'hui sur l'évolution de la solitude et de l'isolement en France pour les plus de 60 ans.
Avant de parler de ce que c'est que la mort sociale, rapidement, comment on obtient ces chiffres ? Quelle est la méthodologie d'un baromètre ?
Alors, la méthodologie, elle est assez classique, c'est-à-dire qu'on a travaillé en partenariat avec CSA Research, qui réalise des enquêtes. Donc, on a eu un échantillon de 1860 personnes âgées de plus de 60 ans sur toute la France. Donc, il y a un échantillon tout à fait représentatif compte tenu du nombre de personnes âgées en France. Et à partir de là, on a élaboré un questionnaire avec CSA Research qui nous a permis de mesurer et à la fois le ressenti de la solitude et en même temps des données sur l'isolement. Et à partir de ces données quantitatives, on a aussi réalisé des entretiens qualitatifs. Donc là, sur un nombre de personnes beaucoup plus resserré, 19 seulement, des personnes qui sont accompagnées par les Petits Frères des Pauvres. Et en fait, cette étude qualitative, elle vise à faire témoigner les personnes, à leur donner l'occasion d'avoir la parole pour qu'elles disent comment elles vivent cette solitude, comment elles vivent cet isolement. Et les témoignages qu'on a à travers cette étude qualitative sont extrêmement forts parce qu'on voit des personnes, certaines de 60, 62 ans, d'autres beaucoup plus âgées, qui nous disent en fait à quel point elles peuvent passer des journées entières sans jamais avoir quelqu'un à qui parler. On a une personne qui témoigne du fait qu'elle finit par parler avec ses murs, tellement en fait elle ne rencontre jamais quelqu'un au cours de la semaine, par exemple.
Mais eux ne lui répondent jamais.
C'est ce qu'elle explique, malheureusement, ils peuvent pas me répondre.
Et donc, vous parlez d'un des premiers constats alarmants que vous faites dans ce baromètre, c'est cette situation de mort sociale qui est en forte augmentation. Qu'est-ce que ça signifie, cette expression ?
Alors, peut-être pour bien comprendre cette notion de mort sociale, qui est vraiment un thème, une notion qu'on a créée pour que tout le monde puisse prendre la mesure de ce que ça veut dire que l'isolement extrême, parce qu'en fait, on parle d'isolement extrême. En France, on a 18,5 millions de personnes de plus de 60 ans. Sur ces 18,5 millions, on en a déjà 2 millions qui sont isolées, c'est-à-dire qu'elles sont coupées de leur cercle familial et de leur cercle amical. Dans ces 2 millions, on en a ensuite 750 000, donc c'est 150% de plus qu'il y a 8 ans sur notre premier baromètre, qui sont en situation de mort sociale, c'est-à-dire qu'elles sont non seulement coupées du cercle familial et amical, mais également du cercle voisinage et de tout le réseau associatif. Donc là, on est sur un isolement extrême qui, dans certains cas, malheureusement, peut conduire à ce que l'on appelle la mort solitaire, c'est-à-dire des personnes qui décèdent à leur domicile et dont on se rend compte des fois des semaines, des mois, voire des années plus tard qu'elles sont décédées parce qu'elles n'avaient absolument plus aucun contact avec notre société. Ce qui doit fortement nous interpeller, évidemment. Et ce qui nous interpelle encore plus, c'est que ces chiffres, malheureusement, vont augmenter. C'est-à-dire qu'on est à la fois confronté à une transition démographique. La population en France vieillit, et c'est le cas dans beaucoup de pays à travers le monde. Donc on estime qu'à horizon 2030, on aura 1 million de personnes en situation de mort sociale. À l'échelle francilienne, c'est 100 000 personnes de plus de 60 ans. Donc c'est l'équivalent d'une ville comme Montreuil ou Boulogne. Donc on parle quand même d'une quantité impressionnante de personnes qui sont extrêmement seules.
Et quels sont les facteurs qui favorisent cette mort sociale ? Qu'est-ce qui entre en compte pour qu'on en arrive à cette situation ?
Alors, il y a déjà dès le départ des personnes qui, depuis leur plus jeune âge, sont relativement isolées et ont un cercle familial ou amical moins développé que d'autres. Ça joue. Mais il y a surtout l'avancée en âge et des parcours de vie. Donc, il y a souvent la retraite, le moment où on va se couper du milieu professionnel. Déjà, on perd potentiellement un des cercles essentiels de la vie, du quotidien et du lien social. Il y a aussi, avec l'avancée en âge, le fait que le cercle amical se restreint. On perd ses amis qui sont malades, qui décèdent. On peut aussi perdre son compagnon, sa compagne. Et donc, le veuvage, ou en tout cas la perte du compagnon, va aussi renforcer l'isolement. Donc, toutes ces trajectoires de vie qui sont dans la logique aussi du vieillissement, ça joue. Mais ce qu'on observe, c'est qu'on a deux facteurs qui viennent aggraver ça. On a la pauvreté. C'est-à-dire que très clairement, quand on est pauvre, on est beaucoup plus isolé. On a plus de risques d'être isolé que quand on ne l'est pas. Quand on sait qu'on a à peu près 10% de personnes de plus de 60 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté, vous imaginez bien les effets que ça peut avoir. Parce que quand on vit avec moins de 1 200 € par mois, on fait des arbitrages dans son budget. Et ça veut dire qu'on va rogner sur des dépenses qui peuvent être généralement des dépenses qui vont peut-être faciliter le lien social. Sortir, aller au cinéma, s'offrir un café à la brasserie en bas de chez soi. Ça va être aussi rogner sur son abonnement à la boxe. Donc, moins de possibilités de se connecter et d'entrer en relation avec les autres. Donc, la pauvreté est un facteur aggravant. Le deuxième, c'est l'avancée en âge. Et une fois de plus, comme on est dans une situation de transition démographique, on meurt de plus en plus tard, donc on vieillit, ça c'est très bien. Sauf que quand on passe le cap des 80 ans, généralement, l'isolement, on est plus sujet au risque de l'isolement. Pourquoi ? Parce que le réseau proche diminue de plus en plus, c'est peau de chagrin, et aussi parce qu'il y a la perte d'autonomie. On va moins pouvoir se déplacer. La maladie peut survenir. Et donc ça aussi, ce sont des facteurs qui vont jouer. Il faut se rendre compte que l'isolement, il est aussi bien dans les territoires ruraux que dans les grandes villes. Il n'y a pas un café et papoter avec les gens à côté. Mais dans les grandes villes, on est aussi isolé. Même si on vit en copropriété dans un immeuble avec des voisins, même si on a des services de proximité en bas de chez soi, il n'empêche qu'on peut être tout aussi isolé. Parce que, par exemple, on a du mal à sortir de chez soi, parce qu'on a un escalier, parce que l'ascenseur est toujours en panne. Donc, c'est tous ces éléments-là qui, mis bout à bout, vont amener potentiellement à l'isolement, voire à la mort sociale.
Et justement, ça me fait penser que en Île-de-France, par exemple, qui est une région très 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 urbaine, il y a 4% de personnes qui sont en état de mort sociale.
Oui.
Et ça rejoint ce que vous dites, par exemple, quand on voit que dans le Grand Est, c'est seulement 1%, en Corse 2%, ou en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 2%. Du coup, qu'est-ce qui fait que ces régions-là arrive à un taux plus faible que Paris, par exemple?
Alors, c'est difficile à analyser, mais déjà, je ne dirais pas que l'Île-de-France est très urbaine. En fait, l'Île-de-France est très contrastée. Vous avez des zones rurales. Quand on est au fin fond du Val-d'Oise ou dans l'Essonne, en fait, on est vraiment dans les zones rurales et on le voit dans notre action. Moi, je suis directrice de Paris, mais je travaille avec mes collègues qui sont sur la banlieue. Et en fait, ils travaillent vraiment dans des territoires ruraux. Et du coup, on adapte notre action en fonction des territoires où on est. Après, comment l'expliquer? Je vous le disais, je pense qu'il y a le taux de pauvreté. L'Île-de-France a quand même des territoires où la pauvreté, notamment des plus âgés, augmente. Et ça, c'est aussi particulièrement alarmant. Donc, il y a la pauvreté, puis après, il y a l'action qui peut être mise en place. C'est vrai qu'on a... On a du mal à documenter précisément pourquoi les chiffres sont plus alarmants dans certaines régions que dans d'autres. Ce qui est sûr, c'est qu'en Île-de-France, on est passé de 1% il y a 4 ans, personnes en situation de mort sociale, à 4%. Donc, ça veut dire que le phénomène et la tendance est en train non seulement de s'installer, mais de s'accélérer.
Donc, en fait, c'est multifactoriel et plutôt assez difficile à tracer précisément. Et j'aimerais maintenant qu'on parle de plutôt ce lien entre les aînés qui sont grands-parents et donc forcément leurs petits-enfants et la jeunesse. Plus on vieillit, moins on est, ce qui ressort de votre baromètre, c'est que plus on vieillit, moins on est en contact avec ses petits-enfants. Mmh. Comment recréer un lien entre cette jeunesse, nous notamment, et nos grands-parents, et notamment les plus âgés?
Je pense que ça passe par l'attention à l'autre, en fait. C'est des choses toutes bêtes, mais souvent, quand on fait de la sensibilisation, par exemple, dans les collèges, on intervient auprès des cinquièmes, et on travaille sur les préjugés liés à l'âge, notamment. Et souvent, les collégiens nous demandent qu'est-ce qu'on peut faire. Mais ça commence déjà par prendre soin du lien qu'on a quand on a la chance d'avoir des grands-parents, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais de prendre soin de ce lien-là, de prendre des nouvelles, de rendre visite régulièrement particulièrement. Ça passe aussi, on essaie de soutenir la maîtrise du numérique pour les seniors. Parce qu'en fait, il y a aussi plein de choses qui peuvent se jouer à travers le fait de pouvoir utiliser des canaux de communication qui sont ceux des nouvelles générations aussi. Or, on voit que malheureusement, on a un quart des seniors qui n'utilisent pas du tout le numérique au quotidien. Donc, ça les coupe aussi d'une possibilité d'entrer en relation avec leurs petits-enfants ou leurs neveux et nièces. Donc là, il y a peut-être aussi des choses qui peuvent se jouer avec des petits-enfants qui peuvent apprendre à leur papy, à leur mamie, comment j'utilise WhatsApp, à quoi ça sert et comment ça peut être aussi un vecteur de lien. Entre autres, le jeu en ligne aussi. Il y a même des associations, il y en a une qui s'appelle Silver Geek, qui organise des ateliers pour que les seniors s'approprient les jeux en ligne, fassent des compétitions, jouent avec leurs petits-enfants. Tout ça, c'est vraiment au quotidien comment on fait en sorte de trouver des actions, des activités qui permettent de maintenir ce lien-là, en fait.
Et c'est vrai que les seniors les plus de 70 ans sont très connectés. Mais il y a un petit recul.
Il
y a une défiance rapidement. Est-ce qu'il y a une petite défiance de la part des personnes âgées
Alors ça,
une augmentation de la défiance plutôt.
Je pense pas que c'est forcément de la défiance. Je pense que pendant le Covid, ce qu'on a vu, c'est que les seniors avaient été un peu contraints quelque part de se mettre au numérique parce que c'était un peu le seul moyen d'entrer en relation. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, maintenant que le Covid est derrière nous, finalement, cet élan qu'il y avait eu sur le numérique a régressé. Et donc, ça repose la question du lien.
Merci beaucoup. Merci.
On revient après une petite pause. On écoute Bad Brains, The Band in DC. C'était Bad Brains, The Band in DC. Il est 19h19 et vous êtes toujours sur la matinale de Radio Campus Paris.
La matinale de 19h. 93.9 FM.
Nous sommes toujours avec Maude Ferral, directrice de la Fraternité Régionale de Paris au sein des Petits Frères des Pauvres.
Donc, on parlait du numérique, des personnes âgées, du numérique. Est-ce que on peut parler déjà de ça comme peut-être un outil pour retrouver ces personnes isolées, les identifier, et sinon d'autres solutions pour y parvenir?
Alors effectivement, vous pointez du doigt la difficulté la plus prégnante, c'est que quand on est en situation de mort sociale, on est totalement invisible aux yeux de la société, puisque de fait, on a zéro contact avec qui que ce soit dans son cercle familial, amical, associatif et voisinage. Tout l'enjeu pour les associations, dont les Petits Frères des Pauvres, c'est comment on repère ces personnes-là et comment on va vers elles pour leur proposer un accompagnement qui leur permette de sortir de cette situation d'isolement extrême. Et c'est extrêmement compliqué, puisque comme je disais, elles sont invisibilisées. Donc ce que nous, on développe aujourd'hui, c'est des programmes vraiment spécifiques qu'on appelle d'aller vers, c'est-à-dire qu'on fait vraiment la démarche d'aller vers les personnes. Alors, on a différents types d'actions. On organise des petits cafés mobiles sur certains marchés parisiens où, en fait, on s'installe, on offre café, boissons, petits gâteaux aux personnes âgées qui viennent, qui descendent faire leur marché. Et en nouant un premier contact, ça permet d'échanger avec elles et de voir si, progressivement, la confiance s'installant, on peut leur proposer un accompagnement, on peut les mettre en relation avec d'autres partenaires ou avec les services sociaux de secteur. On a aussi un programme avec des bailleurs sociaux parisiens, Paris Habitat et la RIVP, où là, on s'installe en pied d'immeuble dans des permanences et en fait, on fait du porte-à-porte avec les gardiens. Et on va vers les personnes âgées que justement les gardiens voient rarement, qui nous signalent pour faire connaissance et voir dans quelle mesure venir à la permanence, participer à un temps avec les voisins, discuter, faire un jeu. Et comme ça, en fait, par ce lien qu'on tisse progressivement, on rentre dans une relation qui peut permettre ensuite de débloquer des situations d'accès aux droits, voire de les accompagner. Donc l'enjeu pour nous, il est vraiment là. Il est comment on crée un maillage territorial, comment on travaille en partenariat avec d'autres acteurs associatifs et institutionnels pour vraiment aller vers ces personnes qui sont souvent, en plus, en situation de précarité financière.
Le gouvernement avait lancé la plateforme Eugénie pour répertorier toutes ces informations, en fait, faire une sorte de plateforme centralisée pour ces personnes âgées-là. Quel bilan ? Est-ce qu'on peut faire un premier bilan déjà de cette plateforme ? Elle a été lancée quand ?
Je ne me permettrai pas de faire un bilan sur la plateforme, mais il y a des initiatives qui sont menées. Il y a notamment à l'échelle de Paris, il y a un fichier qui s'appelle le fichier réflexe qui est mis en place à l'occasion des canicules et qui a pour vocation justement à recenser toutes les personnes âgées vulnérables. La difficulté, c'est que dans le contexte de la RGPD, c'est des données qu'on ne peut pas se partager entre nous. Donc on retombe sur cet enjeu de comment on repère et on identifie les personnes âgées les plus précaires. Après, d'une manière plus générale, si on élargit le spectre, on sait qu'on est dans un contexte de transition démographique. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir des politiques publiques de long terme qui regardent de quelle manière on va appréhender un phénomène qui est déjà aujourd'hui présent et qui ne va faire que s'accentuer. Et donc, ce que les petits frères des pauvres préconisent, c'est d'avoir une loi cadre qui prenne en compte sur le long terme l'évolution et le vieillissement de la société et qui propose des axes en termes de prévention. Ça, c'est fondamental. Dans les préconisations qu'on fait, on dit que ce serait aussi intéressant de chiffrer le coût de cet isolement.
On y reviendra juste après. Oui, sur notamment ce chiffrement du coût de l'isolement et de la solitude. Je voulais revenir sur un petit chiffre qui m'avait paru un peu positif, peut-être que vous allez le nuancer, mais c'est ce regain de liens amicaux le lien amical des personnes âgées. Il y a un bond de plus 10% de liens amicaux. Juste si on peut revenir rapidement sur ce chiffre, est-ce qu'il traduit quelque chose d'intéressant, un regain positif de contact ?
Au moins, on a un chiffre qui est positif, parce que dans l'ensemble, les chiffres sont plutôt alarmants et plutôt à la hausse. Donc c'est vrai que ça, c'est un élément qu'on peut retenir comme positif. Par contre, ça décroche sur le volet familial, par exemple. Donc après, c'est difficile d'expliquer pourquoi en 4 ans il y a un regain sur le cercle amical et pourquoi ça décroche plutôt sur le cercle familial. Est-ce que c'est à mettre aussi sur des effets post-Covid ? Il y a des choses qu'on n'analyse pas complètement encore aujourd'hui.
Sur la solitude, donc, il y a d'autres chiffres alarmants qui sont pas que sur l'isolement, mais sur ce sentiment de solitude. C'est 5,7 millions d'aînés qui n'ont personne à qui se confier, 4,2 millions d'entre eux qui ressentent une solitude durable, donc depuis plusieurs années. Et en fait, comme on faisait cette différence entre isolement et solitude, une fois qu'on a cassé l'isolement, qu'est-ce qui reste à faire et qui peut intervenir ? Est-ce qu'il y a des pistes pour casser ce sentiment de solitude et parfois d'abandon pour les personnes plus âgées ?
Déjà, il y a effectivement ce que les associations peuvent faire et les partenaires institutionnels, mais après, c'est aussi des actions au quotidien. Quand vous entendez que vous avez beaucoup de personnes âgées qui disent, en fait, dans mon immeuble, la plupart du temps, l'échange avec les voisins, c'est bonjour, bonsoir. C'est un peu concernant, parce que ça veut dire qu'en fait, et ça alimente le sentiment de solitude. On a des personnes âgées qui nous disent, en fait, je n'ai jamais de discussion de fond, sans parler même de discussion intime, intime, mais simplement d'échange en profondeur avec les personnes. Bah oui, parce que quand on vous dit juste bonjour, bonsoir, qu'on vous demande même pas comment ça va. Donc ça passe aussi par des actions toutes simples de recréer du lien social, chacun à notre niveau, dans l'entourage familial, amical, et aussi dans les lieux où l'on vit. Et puis après, bien sûr, le rôle des associations, le rôle des partenaires institutionnels qui peuvent mettre en place des accompagnements qui vont venir étayer et soutenir les personnes dans leur quotidien.
Et vous parlez justement de ça va pas au-delà de ce bonjour, bonsoir. Il y a un effort à faire des personnes plus jeunes, donc de l'entourage. Est-ce que les personnes âgées souffrent d'une stigmatisation ?
Oui, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle l'âgisme. Il y a de multiples discriminations et il y en a une qui s'appelle l'âgisme, c'est-à-dire que l'on est porteur tous de préjugés sur les personnes âgées. Et ça vient aussi forcément interférer dans les relations qu'on peut avoir. Un exemple typique qu'on a, on se retrouve à râler parce qu'on est à la caisse au supermarché du coin et puis il y a la petite mamie devant qui met 3 plombes pour sortir son porte-monnaie et qui discute avec la caissière alors que nous, on est super pressés parce qu'on doit aller à tel ou tel endroit après. Et là, on peut avoir souvent des préjugés, c'est-à-dire la petite mamie qui met 3 plombes, sauf que la petite mamie, c'est peut-être la seule interaction qu'elle a dans la journée en fait avec la caissière. Donc si on se dit ça, le regard qu'on a sur cette dame ou ce monsieur qui est en train de faire ses courses, si on se dit bah oui, c'est l'un des seuls échanges de la journée, le regard il change. Et ça permet de se dire c'est pas une question de vieillesse en fait, c'est pas une question d'âge, c'est qu'on est face à quelqu'un qui est isolé. Et l'isolement frappe pas que les personnes âgées, mais frappe aussi les plus jeunes. Donc le fait de simplement se dire je change juste mes lunettes là et je me dis que c'est pas parce que la personne est âgée, c'est parce qu'elle est seule. Ça change un peu la perspective qu'on a de la situation.
Et dans le baromètre, il est aussi question de la loi Bienveillir, qui a été promulguée en avril 2024. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi elle consiste et si on peut déjà en dresser un bilan ?
Alors, c'est un peu tôt pour en dresser un bilan. Et ce que je vous disais, nous, on avait plutôt accueilli l'idée de cette loi Bienveillir positivement. Mais ce que l'on réclame, c'est vraiment une loi programmatique qui prenne en compte sur le long terme les enjeux de cette transition démographique. C'est ce que je vous disais juste avant. On a besoin de passer outre des mesures ponctuelles ou entre guillemets de saupoudrage pour aller vers vraiment des actions qui visent les 5 à 10 années à venir et qu'on entre aussi dans le champ de la prévention. On y reviendra avec l'enjeu aussi de se dire comment on arrive à mesurer aujourd'hui l'impact de l'isolement, le coût sur les finances publiques, puisque c'est un sujet qui est beaucoup mis en avant ces derniers temps, parce qu'on se dit que si on regardait vraiment concrètement quel impact a l'isolement sur les finances publiques, peut-être qu'on se rendrait compte que mettre en place une politique de prévention coûterait moins cher et serait bénéfique à tous en termes de lien social. Parce qu'en fait, le lien social et recréer du lien social, c'est pas que bénéfique pour les personnes âgées, c'est bénéfique pour tout le monde, en fin de compte.
Justement, il y a l'Espagne qui a fait cet effort de vous donner le chiffre dans votre rapport, qui a fait l'effort de mesurer financièrement ce coût de l'isolement social. C'est plus de 6 milliards d'euros. Est-ce que ça a fait, vous savez, si ça a fait réagir, justement, quand vous parliez que ça peut être percutant que les gens comprennent, enfin l'entendent, un chiffre comme ça, est-ce que ça, en Espagne, vous savez si ça...
Alors non, très honnêtement, okay. Je ne sais pas si ça leur a permis ensuite de mettre en place des politiques de prévention. Je n'ai pas les éléments d'information, donc je ne vais pas vous dire de bêtises.
Et bien justement, donc venons-en à vous, à vos solutions, ce que vous préconisez en tout cas dans votre rapport. Donc c'est 15 solutions regroupées en 4 parties, un peu comme peut-être une marche à suivre. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous voulez structurer ces solutions-là et résumer dans chaque partie ce qui est proposé ?
Alors on porte effectivement 15 préconisations, donc je ne vais pas toutes les passer en revue, mais peut-être mettre l'accent sur celles qui me paraissent les plus importantes. Donc il y a celle dont on vient de parler, qui consiste à se dire il faut être en capacité de chiffrer le coût de l'isolement de manière à voir ce que ça représente et se rendre compte que peut-être mettre en place une politique préventive coûterait moins cher. Il y a aussi le fait de prendre en compte dans les politiques de prévention sur la santé et la santé mentale le fait que l'isolement est un facteur aggravant. Définitivement, il faut se rendre compte que quand on est en situation d'isolement, on rentre assez vite dans un cercle vicieux, l'isolement venant aggraver la situation de santé et venant aussi jouer sur les troubles neurocognitifs et sur la santé mentale des personnes âgées. Et ça, ça ne vaut pas que pour les personnes âgées, ça vaut pour toutes les personnes qui sont en situation d'isolement. Une autre préconisation qui me paraît vraiment essentielle, ça concerne le niveau de ressources des personnes âgées. Aujourd'hui, le minimum vieillesse, il est en dessous du niveau du seuil de pauvreté. Il y a un écart de 250 euros. Le seuil de pauvreté est à 1288 euros, c'est déjà pas énorme. Donc vous imaginez que les personnes qui sont au minimum vieillesse, elles ont un peu plus de 1000 euros pour vivre tous les mois. Donc ça, ça nous paraît essentiel à partir du moment où on sait qu'il y a une corrélation entre les situations de pauvreté et l'isolement, et qu'être en situation de pauvreté, ça renforce généralement l'isolement. Et puis, on parlait de mort sociale qui peut conduire, dans les situations extrêmes, à la mort solitaire. L'une des préconisations qui me paraît significative, c'est d'être en capacité de mettre en place un système d'alerte qui permette de détecter ces situations-là en travaillant avec des partenaires, notamment fournisseurs d'eau, d'énergie, enfin qu'il y ait des systèmes vraiment qui nous permettent de détecter ces situations pour ne pas en arriver à ce qu'on voit dans les faits divers très régulièrement aujourd'hui.
Merci beaucoup Maud Ferral pour cet entretien et vous pouvez retrouver le baromètre sur le site des Petits Frères des Pauvres en ligne. On revient après une petite pause musicale. On écoute All Systems Are Dying de Soul Wax. C'était All Systems Are Dying de Soul Wax. Il est 19h34 et vous êtes toujours sur la matinale de Radio Campus Paris.
La matinale de 19h.
Et maintenant, Marine vient nous parler de la fameuse taxe Zucman. La parole est à toi.
Merci Juliette. Bonjour à tous et à toutes. Pour cette chronique actu, parlons fiscalité. Aïe, c'est pas trop sexy, mais je vous jure que c'est intéressant. Vous avez sûrement vu passer qu'en ce moment, on parle du budget partout. D'ailleurs, ce lundi 20 octobre, les députés de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale ont examiné le budget de l'État. Et parmi les mesures phares de cet examen, on retrouve la taxe Zucman. Eh bien, cette taxe n'a pas la cote dans tous les camps. Elle est défendue par la gauche au nom de la justice fiscale, mais est rejetée par le camp gouvernemental et le RN, la voyant comme un dispositif menant à une vague de désindustrialisation et des tas de systèmes de contournement ou d'optimisation fiscale pour ne pas la payer. Bref, elle ne fait pas consensus. Si la copie n'est pas corrigée pour protéger les Français de ce qui est en train de se produire, le choix des milliardaires contre les gens ordinaires, nous serions amenés à avoir un jugement extrêmement sévère, déclarait le patron des socialistes, Olivier Faure, sur RTL. Traduction, il parle de censure. Alors, pour ceux à qui la taxe Zucman ne dit rien, laissez-moi vous la présenter. Déjà, elle tient son nom de l'économiste Gabriel Zucman et prévoit en gros de faire payer davantage les milliardaires français. Si on rentre dans les détails, cet impôt permettrait de s'assurer que les foyers fiscaux disposant de plus de 100 millions d'euros de patrimoine contribuent chaque année au moins à hauteur de 2% du montant de leur fortune. Monsieur Zucman justifie son projet en deux points. D'une part, le patrimoine des riches n'a fait que flamber ces dernières années. D'autre part, les milliardaires paient proportionnellement deux fois moins d'impôts que la moyenne des Français, tout prélèvement confondu. En France, plus tu es riche, moins tu paies d'impôts. C'est pas moi qui le dis, c'est des chercheurs de l'Institut des politiques publiques. À partir des 0,1% les plus riches, le taux effectif d'imposition sur l'ensemble des revenus commence à décroître. Les milliardaires paieraient autant, mais pas plus, que les catégories sociales situées en dessous d'eux, a estimé Zucman dans un entretien au Monde. Plutôt sensé comme projet finalement, mais alors vous vous demandez sûrement pourquoi ce projet électrise autant le débat politique. Pour ses défenseurs, elle permettrait de rétablir l'équité fiscale tout en sortant le pays de la crise de la dette. Mais pour ses détracteurs, elle va contribuer à éloigner les ultra-riches et leurs entreprises si bénéfiques pour l'économie du pays. Mais comment cette taxe sortirait la France de la crise de la dette? Eh bien, que ce chiffre soit vivement contesté, elle pourrait rapporter 20 voire 25 milliards d'euros par an aux caisses de l'État. Pour d'autres, 5 milliards d'euros qui justifient par les risques d'évasion fiscale suite à sa mise en place. Pour contrer cet argument, ses défenseurs souhaiteraient ajouter un bouclier anti-exil qui viendrait soumettre les potentiels exilés fiscaux à cet impôt jusqu'à 5 ans après leur départ. Alors maintenant que vous connaissez tout de la taxe Zucman, vous pourrez suivre le débat qui se tiendra vendredi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. En tout cas, la gauche, elle, n'est pas prête à lâcher le morceau.
Merci Marine. Et tout de suite, c'est le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Ce soir dans le Zoom, on reçoit Marjolaine Schuch et Jean-Baptiste Taine, chef de projet de l'exposition Flop au Musée des Arts et Métiers. À mes côtés pour ce Zoom, Diane qui va Bonsoir. Mener cette interview. Salut Diane.
Bonsoir. Déjà, merci à beaucoup d'être venu jusqu'à Radio Campus. Déjà, comment vous allez? Je sais que l'exposition a déjà commencé parce qu'elle a commencé le 14 octobre, mais j'imagine que c'est un long travail d'organisation, de recherche, de mise en place de cette exposition. Qu'est-ce que ça fait de la voir maintenant en réel et de voir des gens qui viennent la visiter?
Ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. On est hyper heureux parce qu'il y a beaucoup de visiteurs qui se présentent déjà pour la visiter depuis la semaine dernière et ils sortent plutôt ravis. Donc on a l'impression du sentiment du devoir accompli.
Tout à fait, oui, c'est ça. On voit les gens sourire en sortant, donc c'est plutôt très chouette.
D'ailleurs, l'objectif de l'exposition, c'est de rire de ces échecs, mais pas que. C'est aussi de les analyser, de les regarder avec bienveillance et de se questionner dessus. Comment on fait pour pas tomber sur que des gags de « Oh là là, comment c'est tellement drôle d'avoir fait ce flop ?» Mais aussi de regarder un regard peut-être artistique et les analyser aussi à travers le prisme qu'est les objets, etc. et leur histoire. Comment on fait ?
Alors déjà, en fait, on essaie de ne pas se moquer. Alors c'est vrai qu'il y a des histoires qui sont très drôles et puis des flops qui sont risibles, mais on ne s'en moque pas. D'abord parce que les gens ont quand même essayé, donc ils ont droit à un peu de respect pour avoir vraiment tenté les choses. Et c'est un regard qui passe par le fait qu'on va essayer de dédramatiser pour pas se dire que l'échec, c'est une fin en soi. C'est pas une fin, un échec. Après, on essaye d'en apprendre quelque chose pour continuer.
Marjolaine ?
Oui, c'était vraiment cette idée de dédramatiser l'échec. Souvent, c'est quelque chose qu'on ne montre pas. On est d'habitude dans un peu une présentation du progrès comme quelque chose d'inéluctable, de linéaire et qui ne s'arrête jamais et sans personne qui rate la marche, sans embûche, alors que c'est exactement le contraire qui se passe. La recherche, l'innovation, ça fonctionne quasiment uniquement par itération. Et l'idée, c'était de montrer un petit peu les dessous de tout ça, certes avec quelques exemples qui prêtent à sourire, mais en se penchant un petit peu plus dans le détail aussi sur ces ressorts d'innovation, sur ce qui fait qu'une invention, qu'une bonne idée devient un flop ou devient un top.
Et pourquoi c'était important pour vous de parler des erreurs et des ratés dans l'industrie des objets, etc. Parce que je pense qu'on connaît tous des humoristes qui font des bides, il y en a beaucoup qui en parlent, ça peut être aussi... Des comédiens qui ont raté des castings, qui n'ont pas fait de grands films, etc. Pourquoi c'était important d'en parler dans les histoires des objets ?
Alors nous, on travaille dans un musée qui est le Musée des Arts et Métiers, qui est un des plus anciens musées d'histoire des techniques. Et forcément, on regarde les choses par ce prisme-là. Donc évidemment que l'exposition flop, la thématique du raté, on allait l'intégrer dans ce prisme de l'histoire des techniques, de l'histoire de l'innovation, parce que on a des collections qui sont en lien avec ça, que nos collections sont riches en flops, donc on avait largement de quoi faire. Et puis parce qu'on s'est aussi inspiré d'une exposition de la Cité du Design de Saint-Étienne, qui avait été présentée en 2021, qui avait cette focale plus autour de l'objet et du design. Et on avait envie d'y mettre notre patte, d'y mettre notre touche, le Musée des Arts et Métiers.
Quelque chose à rajouter ?
Oui, en fait, c'est ça. L'exposition d'origine, c'était vraiment centré sur le design. Mmh. Son sous-titre, c'était quand le design s'en mêle, avec un jeu de mots sur s'en mêler et se mêler du design. Et nous, voilà, parce qu'on a les collections, parce qu'on a tout ce bagage sur la culture de la technique, on a cherché à aller plus loin et à parler d'innovation, et à parler du processus, et à parler d'analyse de tout ce qui pouvait se passer.
Dans l'exposition, il y a 4 parties. Déjà, comment ça a été choisi ? Donc, il y a une partie qui s'appelle Oups, qui est un peu bienvenue dans l'entrepôt des flops. Une deuxième partie, raté mode d'emploi. Une troisième qui s'appelle Les raisons de la galère, qui est un peu une analyse de certains échecs, etc. Et une dernière qui s'appelle Mieux raté pour innover. Comment vous avez... j'imagine que vous m'avez dit, vous avez énormément de flops au sein des collections du Musée des Arts et Métiers. Comment vous avez imaginé ces différentes parties ? Est-ce que vous avez classé chaque objet en fonction de leurs caractéristiques ? Comment ça s'est
découpé ? Déjà, on n'était pas tout seul pour le faire.
Oui, j'imagine.
On s'est entouré déjà d'un groupe de travail au sein du musée, puisque c'est une exposition qu'on a construite en interne, donc encore une fois en s'inspirant d'une précédente exposition. Donc on était un petit groupe de travail au sein du musée, on s'est fait accompagner par un conseil scientifique aussi. Et puis après, on a identifié les objets qui étaient déjà dans la précédente exposition et qu'on voulait reprendre, savoir comment est-ce qu'on allait les présenter, comment est-ce qu'on allait les regrouper. Et puis après, c'était au fil des discussions, des recherches, des lectures, de se dire « oui, il faut absolument qu'on parle de ça. Oui, mais si on parle de ça, qu'est-ce qu'il faudrait montrer ?» Ou au contraire, il faut absolument qu'on montre cet objet, mais qu'est-ce qu'on va en dire ? Comment est-ce qu'on va le traiter ? Et puis, est-ce qu'on va accompagner ces objets juste d'un petit texte ? Ou est-ce qu'on va y adjoindre aussi un dispositif de médiation pour pouvoir le rendre plus accessible, plus compréhensible, pour pouvoir créer de l'interactivité aussi avec nos visiteurs ? Donc tout ça s'est constitué un petit peu au fur et à mesure. La composition en 4 parties, elle est arrivée assez vite.
Il y en a eu 5 pendant longtemps.
Oui, il y a eu 5 et puis à un moment donné, il y a eu une fusion. Nous aussi, on a fonctionné par itération.
D'ailleurs, vous parliez de l'aspect ludique. J'ai cru comprendre que c'était quelque chose que vous aviez beaucoup mis en avant au sein de l'exposition, mais vous avez aussi des activités pour les enfants et notamment des visites théâtralisées. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail ?
Oui, donc nos collègues de la médiation ont travaillé à toutes sortes de choses, à commencer par un livret enfant qui peut accompagner les jeunes visiteurs pendant leur visite. Également un parcours dans le parcours permanent du musée, parce qu'on n'a pas pu tout mettre dans l'expo. L'idée, c'était aussi de montrer des choses. Et puis, il y a également des ateliers et pendant ces vacances scolaires, là, à demain et dans une semaine, les deux mercredis, des visites théâtralisées qui sont proposées aux visiteurs et qui s'intéressent vraiment au flop et justement autour des objets qu'on a identifiés comme des jalons dans le parcours permanent et identifiés le reste du temps dans ce petit parcours flop avec des petits soleils de flop.
Des petits soleils de flop, ouais. C'est beau comme expression.
C'est la forme des cartels.
Donc en fait, on a de toute façon une programmation qui va être assez riche hein, autour de l'exposition. On aura en janvier, 17 et 18 janvier, réservé déjà ces dates-là. C'est un week-end consacré au flop avec beaucoup d'activités, de choses qui vont se passer à ce moment-là. Et donc on a comme ça pas mal de surprises encore à réserver.
J'imagine. Moi, je voulais juste finir sur quelque chose. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des parcours complémentaires au sein de l'exposition. Un parcours s'appelle les flops de vos collections directement, et donc pas des collections que vous avez pu rechercher. Et aussi un travail de Caterina Camprani, je ne sais pas si je prononce bien.
Très bien.
Qui questionne les usages et qui est la créatrice d'une série qui s'appelle The Ink of Uncomfortable. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà du travail un peu de Caterina et du coup, qui est, d'après ce que j'ai compris, qui n'est pas un travail de flop inopiné, mais qui est un travail presque spécialisé sur le fait que ce soit des objets qui ne soient pas utilisables.
Ah oui, c'est un flop qui est complètement volontaire. Ouais. Au contraire, l'objet est raté s'il n'est pas inconfortable. Caterina Camprani, c'est une designeuse grecque qui travaille depuis maintenant une dizaine d'années autour de cette thématique et dont on présente une partie de la collection d'objets. Donc elle, c'est une designeuse, donc elle s'intéresse à l'objet, à sa fonction, à son usage et à le rendre le plus pratique possible. Normalement, un bon design, c'est celui qu'on ne voit pas, c'est celui qu'on ne ressent pas, parce qu'au contraire, voilà, c'est une évidence. Caterina Camprani, elle essaie d'insister sur ce qui ne va pas et de le développer, de le maximiser autant que possible pour rendre l'objet le moins pratique possible et interroger à travers ça sa fonction.
Donc elle travaille en fait, elle a une conception qui est tout à fait dans les règles de l'art de quelqu'un qui fait du design, design d'objets comme ça. Elle va passer par toutes les étapes de la conception et juste à un moment donné, elle va mettre ce grain de sable dans la machine. Elle va chercher à saboter une des étapes, que ce soit l'expérience utilisateur, que ce soit la forme de l'objet, les matériaux ou une des fonctions qui est essentielle. Et c'est ça qui va permettre par exemple d'avoir une fourchette qui est trop épaisse ou un bec verseur qui fait 10 cm ou 20 cm de large.
Oui, c'est original. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur l'exposition Flop au sein du Musée des Arts et Métiers ?
Non, à part qu'on accueille tous ceux qui le souhaitent à venir la visiter. Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h et en nocturne le vendredi. Et il est gratuit pour les moins de 25 ans.
Oui. Pour les moins 26 ans, moi j'ai cru...
26 ans, oui. 25 ans révolus, ça marche.
J'ai 26 ans, j'en profite encore un petit peu. Donc pour rappel, l'exposition Flop, c'est au Musée des Arts et Métiers. C'est du 14 octobre, donc ça a déjà commencé. Si vous n'avez pas quoi faire ce week-end, vous savez quoi faire. Au 17 mai 2026, donc vous avez quand même le temps, même si ce week-end vous êtes pris, vous avez le temps d'y aller. Et on rappelle, le 17 et 18 janvier, il y aura une sorte de festival du flop, on va dire, au Musée des Arts et Métiers, avec des ateliers, des performances, des défilés, etc. Et c'est gratuit sous condition pour les moins de 26 ans et pour tous les premiers dimanches du mois.
Exactement.
Merci beaucoup, Marjolaine. Merci Jean-Baptiste pour votre présence dans le studio. Et on écoute à présent un titre de stade de... Pardon, on écoute à présent un titre de stade Nusong. On vous retrouve juste après.
Just
C'était Stade de Nusong. Il est 19h51, vous écoutez la matinale de Radio Campus Paris. Et c'est presque la fin de cette matinale, mais pas tout à fait, puisqu'avec moi en studio, il y a Abel qui est venu nous parler de sa vie d'adulte. On t'écoute.
Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue à tous dans la chronique la plus appréciée de Rendu Radio Campus Paris, d'après ma mère. Et c'est ma première chronique libre à l'antenne, et pour cet événement, je vais vous raconter ma vie d'adulte. À 24 ans, on commence à être très grand. On commence à voir des signaux divers et variés, de doux messages de progrès vers l'adulting, formule nébuleuse pour parler de la calvitie. En effet, j'approche rapidement des 25 ans, et c'est aussi l'âge où le cerveau finit de se former, à l'âge où on peut fumer des joints à moindre risque, toujours selon ma mère. Et pour beaucoup, ça reste très jeune, mais j'ai l'impression de voir des enfants quand je passe devant un lycée maintenant. Et pourquoi je pense que je me considère comme un adulte? Parce que j'ai adopté un poisson, et je passe des heures sur le site de Truffaut pour améliorer son aquarium. Parce que je me lève le dimanche matin pour aller au marché d'Aligre, et mon Dieu que je me sens aimé quand un maraîcher m'offre une botte de persil. Parce que je découvre l'après-shampoing et l'huile pour cheveux. Parce que j'organise des soirées jeux de société, puis je reçois des messages. J'ai la nouvelle extension Catane, pirate et découvreur. Et parce que j'ai hâte de l'été prochain pour faire un GR en Auvergne, pour utiliser ma tente Décathlon MT900. Et putain, c'est quand même super pratique, les bâtons de marche. Alors oui, je suis un adulte. Mais je suis un adulte qui tente de s'éloigner de cette spirale infernale en évitant à tout prix de trouver une carrière et un CDI. Mais oui, maman, un super service civique, ça va me permettre de me trouver. Je suis un adulte qui continue d'acheter des Legos Seigneur des Anneaux que ma copine ne supporte plus, et croyez-moi que je négocie ardemment pour la maison de Hobbit dans l'aquarium du poisson. Je suis un adulte qui passe encore son mardi après-midi à jouer à Baldur's Gate 3 en mangeant des Chocapic, parce qu'il faut vraiment que je débloque la romance avec Gail, le magicien sexy. Mais surtout, je suis un adulte qui a déjà cité deux fois sa mère dans sa chronique. Alors cet adulte, ce n'est pas encore le fruit le plus mûr de l'arbre, mais les pommes tombent autour de moi. Les faire-part de mariage commencent à prendre de la place dans ma boîte aux lettres, et tous mes amis viennent accompagner aux anniversaires. On me parle littérature en soirée, et j'y prends un sincère plaisir. Alors j'aurais aimé que ça reste RER, PSP et THC, mais maintenant c'est VTC, CDI, RTT, et toute une farandole d'acronymes à trois lettres que ma situation professionnelle ne me permet pas de comprendre. Alors peut-être est-il temps pour le carrosse des grands de me faire une place? Peut-être est-il temps pour moi d'arrêter la table des enfants à Noël, de manger des nuggets étoiles et des pommes noisettes surgelées? Oui, maintenant je rêve de bourguignons végétariens et de soupe de potimarron, de goûter le vin en donnant un avis aléatoire avec des mots compliqués. Papa, quelle astragence amboisée dans cette robe trouble. Je suis un adulte, certes, et j'accepte la fatalité de cette pente. Je l'aime et je l'embrasse. Cher Calvici, viens prendre mes belles boucles si tu le souhaites. Mais par pitié, ma chérie, laisse-moi garder mes figurines One Piece. Merci et bonne soirée.
Merci Abel et bonne Calvici. C'est déjà la fin de cette matinale. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à nos invités Maud Ferral, Marjolaine Schuss et Jean-Baptiste Ten. Merci également aux bénévoles qui ont participé à cette matinale, Félix, Marine, Diane et Abel. Et merci à Delila qui était ce soir à la réalisation. Merci à Jeanne et Aude qui coordonnent la matinale, et restez sur Radio Campus. Tout de suite, c'est 4ème murmure en direct jusqu'à 21h, et retrouvez-nous demain, même lieu, même heure, 19h pétante, pour une nouvelle matinale.
Merci à toi, à demain.
Merci.